Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio
sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste.
Midi 13h,
17h, 18h, agenda,
nouveautés discographiques,
interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Souffle du nez en même temps.
De glace entre chaque mot.
Moi, je vais te mettre au rushing.
Nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici, vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure. Avec moi,
c'est
citoyen de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et bienvenue à toutes et à tous. En effet, vous êtes bien sûr Divergence FM et nous démarrons eh bien, nos 50 minutes de virée culturelle. C'est le Tous au poste, bienvenue à vous. Élie El-Kaïm aujourd'hui, derrière les petits boutons frais comme un gardon avec sa nouvelle coupe. Julia Chamodon au micro, également Christian Coste. Aujourd'hui, au menu du jour, eh bien, il sera question de voile. Et oui, Vincent Bourdin, directeur de Cap au large, dont la mission principale est de faire découvrir la voile à tous les publics, vous en parlera sous les coups de midi 20. En deuxième partie de ce Tous au poste, Christian Coste recevra Isabelle Schwinn. Et il sera question de la biodiversité face au changement climatique. Il est heureux de parler de ça, il est très heureux. Il fait la danse du bonheur en studio. Voilà, et puis je crois que c'est tout. Nous allons passer à nos bons plans chéris et adorés. Et on commence ces bons plans en chanson avec le festival éclectique de chansons françaises Les Nuits du Chat, qui est né, je le rappelle, à l'initiative de Cédric. Il a souhaité réunir les drôles et talentueux artistes, tels qu'il le dit, qui se sont succédés au Baloir en 2007 et 2008. Il sera ce soir question à 21h au théâtre Gérard Philippe de Cédric en première partie et en deuxième partie de Sophie Sand, auteur-compositeur suisse, sorte de Benabar en jupon, évoluant entre swing, jazz, blues et zouk. La soirée se finira par un bœuf de bonne aloi, comme il est coutume aux Nuits du Chat. Il vous en coûtera eh bien 10 ou 15 euros pour la soirée. Le pass 3 soirées est à 25 ou 35 euros. C'est au théâtre Gérard Philippe, 7 rue Pagès à Montpellier. Jazz et théâtre, puisque le duo Julien Groupe, qui est à la basse, et Johan Mara à la guitare, nous présente un monologue « Ce n'est pas moi, c'est l'autre », interprété par Valérien Collo. C'est à 20h au Baloir, 21 boulevard Louis Blanc, pour une petite entrée à 5 euros. Frappez des mains, battez des pieds, dansez. Los Chiquitos del Sur sont là pour vous accompagner au bar La Pleine Lune. Ce groupe de flamenco vous en fera voir de toutes les couleurs à partir de 21h30, 28 rue du Faubourg Figrolles. Bien sûr, l'entrée est libre. On les recevait hier, ce sont eh bien, les tenants du festival rock punk des 80s, This Is England, avec notamment The Addicts, le groupe de punk légendaire formé en 77 qui n'a pas changé son line-up à la Droux. Ils nous font penser à Orange Mécanique. Et en première partie, ce sera Irritones, le groupe de punk marseillais qui vous irritera. C'est à 20h à la Secret Place, 25 rue du Pil à Saint-Gély, zone industrielle de la Lauze à Saint-Jean-de-Védas. Il ne vous en coûtera eh bien 15 euros pour cette soirée. Pas très loin, c'est du jazz à Alès, avec la venue de Ibrahim Mahalouf Sextet, avec le trompettiste de jazz franco-libanais Ibrahim Mahalouf, qui a commencé par la trompette classique et qui s'est évaporé ensuite par le jazz. Il est accompagné ce soir par Eric Golo à la batterie, Bachar Khalif aux percussions et au vibraphone, Charles Sidoun aux percussions, Eric Lorera à la guitare et Bernard Vigier à la basse. C'est à 20h30 au théâtre Le Cratère, square Pablo Neruda à Alès, et vous en coûtera entre 12 et 18 euros. On parlait de flamenco, mais il y a également du tango à l'honneur en ce moment, avec un apéro tango, une initiation au tango argentin et une démonstration par Valérie et Laurent. Ce sera à 18h au triangle entre le Bermuda Clafoutis et le Haut Chinois, nous dit-on. Le festival Lehrstück, vous vous rappelez, c'est le festival de master d'études théâtrales de l'université Paul Valéry. Il présente ce soir Les Amantes, une adaptation du roman d'Elfried Jelinek, mise en scène par Maxime Chazalet. C'est à 21h au théâtre La Villette de l'université Paul Valéry, route de Mende, et c'est gratuit. Saperlipopette, voilà Enfantillage, le Le festival pour petits et grands poursuit sa course. Ce soir, il sera à Castries avec le cabaret des Acrostiches, un spectacle de cirque avec 4 acrobates, jongleurs et musiciens. C'est à partir de 6 ans et c'est à voir à 19h aux arènes à Castries pour une petite entrée à 4 euros seulement. Le débat sur la burqa fait mouche en ce moment. On en parle avec une conférence sur le thème voile, burqa et liberté démocratique avec la Fédération de la Libre Pensée à 18h30 à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc. L'entrée est libre. Je rappelle également qu'un très bon article est possible, enfin vous pouvez lire ce très bon article dans le Charlie Hebdo de cette semaine à propos de la burqa. Également en pleine l'actualité, le thème de la laïcité. Une conférence sur le thème laïcité, citoyenneté, religion chrétienne et musulmane par Jean Tufou à 18h à la Maison pour tous et les scooters, 67 rues des Raseteurs près d'Arennes. L'entrée est libre. On parle également de commerce équitable sur le thème vers un commerce équitable local avec des étudiants de l'école supérieure d'agronomie. Et ça sera suivi de la projection du film Les défis du Guarana, suivi d'un débat buffet avec dégustation de Guaranito, une boisson brésilienne, dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable. C'est à 19h à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc. On parle de commerce équitable mais également de biodiversité avec une conférence sur la biodiversité face au changement global, dont le changement climatique, par Isabelle Chuin du CNRS, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. On vous en parlera un petit peu plus en deuxième partie de ce Tous au poste au micro de Christian Coste. Pour assister à la conférence, eh bien rendez-vous à la salle Rabelais à 18h30, boulevard Sarail, l'entrée est libre. Une rencontre entre théâtre et littérature sur le thème « Aimer la littérature jusqu'à la traduire ». Ce sera animé par Gérard Lébert, qui, je rappelle, est prof émérite de théâtre à l'Université Paul-Valéry, avec une lecture de textes d'Henri Miller, Alain Ginsberg, Ernest Hemingway, Agnès Long et des Indiens Navajos par le comédien Patrick Hannes. Et dans le cadre de la donation des archives du poète et écrivain montpelliérain Frédéric Jacques Temple. C'est à écouter à 19h à la médiathèque centrale Émile Zola à Antigone pour une entrée totalement libre. Après la littérature et le théâtre, place à la poésie avec une rencontre organisée par la Société des poètes français, hommage à Georges Brassens, par Régine Montpelli, directrice de l'espace Brassens A7. Serge Bonafos chantera Brassens et également une scène ouverte sera offerte aux poètes. C'est à 18h à la salle Pétrarque de place Pétrarque. L'entrée est libre. Rodolphe Burger est toujours sur les planches et c'est tant mieux avec une rencontre sur le thème Rodolphe Burger et le Velvet dans le cadre de la création de Rodolphe Burger en résidence au Théâtre de Sète, je le rappelle, sur le Velvet Underground. Ce sera à 18h30 à la médiathèque François Mitterrand à 7, l'entrée est libre. Et voilà, c'est tout pour les bons plans du jour. Mais bien sûr, vous trouverez quelque chose à vous mettre sous l'oreille ou sous les yeux. Tout de suite, on passe à la nouveauté de la semaine. Une nouveauté de la semaine qui s'appelle Part-Time Drunks, à moitié bourré donc. The Soul of a Man Under Socialism, c'est le premier album de cette formation qui, je le rappelle, n'est pas toute jeune mais qui fait également aussi de la radio. Un combo ouvert, modeste mais déterminé. Il vous propose 9 titres enregistrés durant ces 2 dernières années. On écoute tout de suite un extrait de Zagreb, Last Night.
Head and belly ache, I took that fucking a lady. And now I'm missing.
C'est sympa. Salut à tous. Aujourd'hui, dans ce Tous au poste, deux invités, une invitée et eux, un invité et une invitée, Isabelle Chouine, ingénieur agronome, docteur en biologie de l'évolution. Ça fait déjà beaucoup. On vous reçoit parce que ce soir, vous animez une conférence au Centre Rabelais à 18h30 dans le cadre d'un cycle de conférences qui est organisé par Connaissance, Agropolis International et la ville de Montpellier à l'occasion de la semaine de la biodiversité, dans le cadre de l'année de la biodiversité. Enfin, on est dans la biodiversité. Année 2010, année de la biodiversité décrétée, si on pouvait dire ça, comme chaque année, l'ONU change un thème, trouve un thème, là, c'était ça. Alors, pour vous présenter, je disais ingénieur agronome, docteur en biologie de l'évolution, vous êtes entré au CNRS en 2002.
C'est
et en novembre 2004, vous avez publié dans Nature un article qui est co-signé avec 6 chercheurs, dont le plus connu est Emmanuel Leroy-Ladurie, historien du climat, entre autres, historien et aussi historien du climat, dont les travaux sur l'histoire du climat lui ont donné une notoriété internationale. Alors, on parlera peut-être de cet article qui a fait parler de lui sur justement des marqueurs. Hein, c'était les vendanges en Bourgogne.
Oui, c'est ça.
Ouais, comment on arrive à voir le climat sur une longue période. Donc, vous avez eu comme marqueur donc les vendanges de 1370 en Bourgogne à partir du Pinot Noir, je crois. Bon. En 2006, vous créez un groupement de recherche qui s'appelle le Système d'information phénologique pour la gestion et l'étude des changements climatiques.
Direct.
Un réseau d'observation qui associe les citoyens au travail des scientifiques, entre autres.
Et entre autres, oui.
Voilà. Et alors, donc, je disais, cette année, donc, à l'initiative de l'ONU, c'est celle de la biodiversité. Puis, alors, la biodiversité, c'est votre dada, hein, puisque vous êtes chercheur dans le domaine. Et vous serez, donc, je le disais, à 18h30 au Centre Rabelais pour animer la conférence sur la biodiversité face au changement climatique. Alors, Isabelle Chouine, les crocodiles, c'est pour quand dans le Lez? Ben oui, hein. On se pose des questions, nous, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Y a-t-il des incidences sur la biodiversité avec ce changement climatique tant annoncé et quelquefois décrié par certains?
Oui, alors bon, justement, tant décrié, justement ce soir, on fera le point sur le changement climatique. D'abord, je pense que ça s'impose. Pour moi et pour, on va dire, l'ensemble de mes collègues, le changement climatique est bien une réalité et bien le fait de l'activité, des activités humaines. En tout cas, à l'heure actuelle de nos connaissances, on peut dire qu'on en est certain. Je dis bien dans l'état actuel de nos connaissances, ça ne veut pas dire que peut-être l'année prochaine, on fera une découverte inattendue qui remettra en cause ces résultats. Mais bon, pour l'instant, voilà,
c'est ce qu'on sait. Voilà.
Et donc, ce changement climatique, effectivement, il a de très gros impacts sur la biodiversité. Alors la biodiversité, c'est quoi en fait? Je me rends compte que pour la plupart des gens, la biodiversité a remplacé le terme un peu de nature. En fait, la biodiversité, c'est bien la diversité du monde vivant. Donc ça englobe l'ensemble des organismes vivants sur Terre. Donc
dont nous,
bien sûr. Donc c'est énorme. Hein. Et le changement climatique, enfin le climat, enfin ces organismes vivent dans des conditions climatiques, et en particulier toutes les espèces qui sont, enfin plantes et animaux à sang froid en particulier, sont en prise directe avec les conditions climatiques pour ce qui est de leur cycle de vie, leur reproduction, etc. Donc changer un climat comme on est en train de le changer actuellement, ça a des répercussions énormes sur le fonctionnement même des espèces, sur leur survie, sur leur reproduction. Donc on voit des changements déjà très importants qui s'opèrent. Donc ce sera une première partie de la conférence ce soir. Et ensuite, on essaye de prédire à plus long terme comment ces changements vont évoluer en utilisant les scénarios climatiques qui sont mis à notre disposition par les climatologues pour essayer de faire des projections et d'anticiper et d'adapter
des modélisations, c'est ce qu'on appelle.
Oui, créer
des modèles.
Créer des modèles, bien sûr, pour
des
faire
petites des observations, vous en faites une extrapolation pour dire, il risque de se passer ça.
Voilà.
Avec des méthodes statistiques aussi, entre autres.
Oui, alors bon, on va pas rentrer dans le détail des modèles, mais...
Si, c'est passionnant, la modélisation. Je vais revenir juste sur les changements qui s'opèrent. Alors, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Alors, je vois que vous êtes prudente, vous dites, en l'état actuel des connaissances. On sait très bien, on met les choses au point. Au moins, comme ça, on n'est pas dans... Attention, nous, scientifiques, nous avons la science non infusée, et puis vous, voilà. Les changements qui s'opèrent aujourd'hui, qu'on a observés ou qu'on peut observer, ce sont lesquels?
Alors, les principaux changements que l'on voit s'opérer, je dis bien les principaux, pour faire simple, on voit des changements au niveau des rythmes saisonniers, c'est-à-dire quand est-ce que ces espèces, par exemple, se mettent à se reproduire, ou quand est-ce qu'elles partent ou reviennent de migration, pour parler d'animaux. Pour les plantes, c'est quand est-ce qu'elles vont fleurir, quand est-ce qu'elles vont rentrer en sénescence, etc. Et ces rythmes saisonniers, donc c'est ce qui rythme la vie de ces organismes, ça a des conséquences directes sur leur... succès de reproduction, sur leur survie, sur la survie des populations. Et une des conséquences de ça, par exemple, c'est une extinction. On peut observer des extinctions de populations dans certaines régions, et au contraire, des déplacements de ces espèces dans des nouvelles régions qui n'étaient pas adaptées à la vie de ces espèces jusqu'à présent et qui deviennent favorables. Donc en fait, on peut dire qu'on a une redistribution un peu de la biodiversité sur la surface de la Terre. Avec des extinctions locales et des migrations d'espèces, donc principalement vers le nord, puisque bon, c'est un peu logique. Voilà.
C'est pour ça que je parlais des crocodiles dans le Lez.
Oui, bon, bah,
évidemment, je déconne.
C'est pas pour demain, bien sûr. Non, mais on peut, par exemple, pour la région...
Déjà des tortues de Californie dans le Lez.
Alors moi, je travaille essentiellement sur les plantes, mais par exemple, le chêne vert, qui est une de nos espèces emblématiques de la région méditerranéenne,
carrément.
On le voit remonter, mais presque aux portes de Paris, quoi, d'ici
d'accord.
la fin de ce siècle, par
donc,
exemple.
Les frontières, c'est vrai, quand on va dans les Cévennes, on a un peu le versant côté climat atlantique, c'est en train de se déplacer, tout ça.
Ah oui, voilà, voilà. Et même déjà maintenant, au cours des dernières décennies, on a déjà vu des changements, enfin, le changement climatique est déjà quand même très important. Enfin, il est de 0,6 degrés sur l'ensemble, enfin, à l'échelle du globe. On va passer dans le scénario dans lequel on se trouve actuellement, on va passer largement à 2 degrés d'ici 2050. Et c'est en moyenne globale. Et donc, c'est énorme.
Je recevais il n'y a pas longtemps Alain Giaudat, qui est un historien du climat que vous connaissez. Et je lui disais, mais Alain, écoute, enfin, regarde, deux fois, cet hiver, il a neigé. Là, il vient de reneiger il n'y a pas longtemps à Rennes-le-Château, dans l'Aude. Enfin, Saint-Thomas, il voit qu'il fait froid, on se pèle en mai, etc. On a du mal. Alors, on comprend bien qu'il ne faut pas prendre une échelle courte.
Ouais,
mais c'est vrai qu'on a remplacé le mot nature par biodiversité, qu'on nous parle de réchauffement climatique alors qu'on... on se les pèle, etc. Donc,
on se les pèle, ceci dit, on a eu un hiver normal. C'est-à-dire qu'on avait, on a eu des,
ouais,
ces dernières années...
Des années,
comment dire, justement, qui apparaissaient exceptionnellement chaudes. Cette année, l'hiver a été, on va dire, dans la normale des normale saisonnière de ce qu'on avait pu connaître.
Oui, non, mais ce, voilà. ce qui me disait, c'est qu'il ne faut, pas se fier au réel apparent.
Mais non, bien sûr,
sur une longue échelle,
le changement climatique, ça se voit sur des siècles. Et voilà.
Alors, donc, vous nous dites ici, le chêne, bon, tendance à remonter. Au niveau des oiseaux, par exemple, il y a des modifications sur les migrations, sur les dates d'arrivée, de départ, etc., ou pas?
Oui, alors sur les oiseaux, je suis moins au fait. Et les oiseaux
répondent.
Pas la
question
non,
sur
mais
les...
c'est. Non, je peux.
Sur les sauterelles,
c'est...
je ne sais pas.
Non, c'est que. Ils sont aussi moins en prise directe, les oiseaux, par rapport au climat, parce que leur. Comment dire donc, c'est des animaux assez chauds. Donc, ils dépendent principalement de la végétation. Donc, ils vont répondre, mais en retard, si vous voulez.
Ah oui, alors...
Donc, c'est pas chez les oiseaux qu'on voit les plus gros changements actuellement. Par contre, les insectes, oui. Les insectes sont en prise directe avec le climat. Et chez les insectes, on voit exactement les mêmes changements, enfin, donc, c'est-à-dire des extinctions locales des populations dans les marges sud de leur répartition actuelle. Et puis,
pas les moustiques,
des colonisations,
en tout cas,
des colonisations vers le nord. Et c'est aussi
pensez
bien...
à quoi, par exemple
tous les insectes. C'est tous, que ce soit des jolis papillons ou des ravageurs de forêts, de cultures, tous.
Ça monte.
Ben oui.
D'accord. Et vous, pourquoi on parle, vous dites les animaux à sang froid. Pourquoi les animaux à sang froid sont plus sensibles au réchauffement climatique les
Oui,
animaux,
leur développement dépend directement des conditions météorologiques extérieures.
Ben les animaux à sang chaud aussi, non?
Non. Bah non, moi vous régulez votre température. Si
j'adore
vous
poser
à zéro...
des questions, vous voyez, des questions de candide à un scientifique.
Si vous vous mettez à
alors,
zéro degré,
pourquoi
vous...
les animaux à sang froid, pourquoi et pas les animaux à sang chaud? Vous voyez, c'est pas évident pour nous,
mais...
qui ne sommes pas docteurs en biologie.
Comme j'essayais de vous le dire, la température, le développement des plantes ou par exemple des insectes dépend directement de la température extérieure. D'accord, leur vitesse de développement dépend de la température extérieure. Ce n'est pas votre cas. Vous restez à 37 degrés, même si on vous met à 0 degré ou à 50 degrés. Enfin, en tout cas, vous essayez.
J'essaye.
Voilà. Ce n'est pas le cas des plantes, des animaux à sang froid. Donc, eux, ils sont complètement dépendants des conditions météorologiques pour leur développement, pour leur cycle de vie, leur reproduction, leur survie. Enfin...
D'accord. Donc, vous avez un observatoire hein, de ces modifications dans les populations, que ce soit la
un
la
observatoire
faune, la
des rythmes saisonniers, oui. D'accord. Donc, on a un groupe de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là et qui réalisent des observations. Et on a également initié une opération de science participative qui s'appelle l'Observatoire des saisons. Qui invite le public à faire le même type d'observation que font les scientifiques. Donc, c'est-à-dire, vous observez la nature autour de chez vous. Donc, même si vous habitez en ville, vous avez peut-être des platanes, par exemple, dans votre rue. Et vous pouvez les observer, savoir quand est-ce qu'ils vont faire leurs nouvelles feuilles, quand est-ce qu'ils vont perdre leurs feuilles. Et ça, ce sont des observations que vous pouvez consigner sur le site internet de l'Observatoire des saisons. Et ces observations sont utilisées ensuite par les chercheurs pour répondre à un tas de questions.
Et c'est valide, c'est facile à faire, il n'y a pas de...
Ah, c'est très, 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 extrêmement facile. Ça s'adresse...
Je vois un papillon...
De 7 à 77 ans, c'est...
Je suis dans un jardin, je vois un papillon, je note, tiens, un papillon.
C'est pas l'observatoire des papillons. Ah. C'est-à-dire que... C'est pas simplement dire que l'espèce, on l'a vue là. C'est dire que... Cet arbre, il a fleuri ce jour-là, où il a perdu ses feuilles ce jour-là. Ce sont les rythmes saisonniers qui nous intéressent. Parce que comme je l'ai expliqué, ils sont directement affectés par le climat et les conséquences des changements de ces rythmes saisonniers, on en a parlé, ça va depuis le fonctionnement même de l'ensemble des écosystèmes jusqu'à la survie des populations de plantes, d'insectes, etc.
Donc vous êtes aujourd'hui, à travers votre travail, votre engagement dans ce travail, parce qu'on ne s'engage pas facilement dans un sens comme ça, sur le à étudier la biologie, son changement par rapport au changement climatique, vous êtes convaincu qu'il y a une influence anthropique sur,
ah oui.
sur voilà. Et alors, qu'est-ce que moi je pose toujours la même question, même si je sais bien que les réponses sont toujours un peu gênées parce qu'il n'y a pas la recette, etc., et que c'est pas une méthodologie comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à part observer, nous ?
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ?
À Pour
aider la recherche ou pour arrêter le changement climatique
Pour arrêter le changement climatique, si on peut le faire.
Arrêter le changement climatique, ça, on sait ce qu'il faut faire.
Mais il faut le répéter.
Tout le monde le sait.
C'est-à-dire
Il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Donc, les gens savent ce qu'il faut faire pour ça. Malheureusement, je pense que beaucoup de gens sont prêts à faire... à changer d'habitude, mais on leur en donne pas les moyens forcément.
Mais vous voyez le sens de ma question. Alors qu'est-ce qu'il faudrait donner aux moyens aux gens? Dites-moi, je suis les gens, de pouvoir
se déplacer sans émettre du CO2, de pouvoir se chauffer sans émettre du CO2. C'est tous les la technologie en fait qui est pas là ou qui est là mais qui est trop onéreuse pour la plupart des gens. Enfin c'est bon, c'est des questions politiques aussi.
C'est une question politique, où la science rencontre la politique sur des sujets aussi délicats que celui-là.
Mais malheureusement, oui.
De fait, malheureusement, oui. Eh bien, c'est sur cette note pessimiste que nous allons... Non, Isabelle Chouine, je suis persuadée que si vous faites ce métier, c'est que vous dites qu'il y a des choses à découvrir et que donc la science peut faire avancer aussi l'organisation humaine. Et surtout, d'ailleurs, sinon, on ne ferait pas de science.
Oui, c'est un intérêt aussi de la science.
On est bien d'accord. Donc on ne peut pas d'un côté dire attention, il y a un truc, puis d'un autre côté on ne peut rien faire parce que la politique, justement, vous êtes là pour donner des informations aux politiques. Et il y en a quelques-uns qui veulent faire quand même pas mal bouger les choses. On va vous retrouver ce soir à 18h30 à la salle Rabelais. Donc pour animer cette conférence sur la biodiversité face au changement climatique, vous voyez 20 minutes, ça passe très très vite. Ambar Gonzalez-Boire est rentré dans le studio, qui fait partie de Connaissance. Et Connaissance, c'est vous qui organisez, rapproche-toi du micro noir. Voilà. C'est Connaissance qui organise ce cycle de conférences.
Oui, c'est Connaissance, donc le Centre Régional de Culture Scientifique, qui organise ce cycle de conférences avec Agropolis International et notamment la ville de Montpellier qui nous prête la salle Rabelais.
Il y aura d'autres conférences à suivre?
Oui, il y aura d'autres conférences. Donc, c'est un cycle qui continue ce soir. Ça a commencé le 26 avril et ça continuera mardi prochain, le lundi 17 mai, avec la biodiversité et écologie évolutive de la conservation, toujours à 18h30.
Au Centre Rabelais.
Toujours au Centre Rabelais. Et après ça, c'est en préparation de la fête de la biodiversité. Et puis pendant la fête de la biodiversité, il y aura d'autres cycles, d'autres conférences.
La fête de la biodiversité, c'est de quand à quand?
La fête de la biodiversité, c'est le 21 et le 22 mai.
D'accord. Partout dans Montpellier?
Oui, à l'Esplanade.
L'Esplanade?
Oui.
Donc il y a des trucs, des animations, des temps.
Il y a des animations qui organisent la ville de Montpellier. Et puis entre ces animations, Connaissance organise aussi d'autres conférences.
Okay.
Il y aura aussi le vendredi 21 mai un film, Baobabs, entre ciel et terre, qui a été primé au festival de films scientifiques à La Réunion.
Et qui sera projeté toujours au Centre Rabelais.
Toujours au Centre Rabelais, cette fois-ci à 20h30.
D'accord. C'est fini pour le mois de mai?
Pour le mois de mai, c'est fini.
C'est fini pour nous aussi. On va passer au prochain invité. Élie, c'est à toi les manettes.
I need Maybe it's inside the bottle.
Maybe it's inside the bottle.
I had some good old buddies. Names is whiskey and wine.
Hey, hey.
And for my good old buddies, I spent my last dime.
Hey, hey.
Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine.
Hey, hey.
Your mama may have blessed the child that's got his own.
Hey, hey.
If God has plans for me, I hope it ain't written in stone.
Hey, hey.
Because I've been working, working myself.
Ça c'est bien ça aussi. On passe de la bonne musique sur Divergence. Eh ben c'est la suite du Tous au poste avec Vincent Bourdin. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Mais qui c'est Vincent Bourdin? Pourquoi il est là aujourd'hui? Alors c'est le directeur de Cap au Large. Mais qu'est-ce que c'est Cap au Large? Une association qui ouvre la mer à tous. Moi c'est comme ça que je résumerai. Je suis pas sûr que vous soyez la seule association qui ouvre la mer à tous, mais par contre, vous faites parler de vous. Vous avez dernièrement organisé un concert de soutien. Mon Dieu, mais pourquoi un concert de soutien? Pourquoi je dis mon Dieu? Je suis laïque et athée en plus, voire agnostique. Donc, et ce concert de soutien, ça a bien marché?
Alors, bah pour résumer, pas trop en
pas
vrai.
Trop.
On n'a pas eu le monde escompté. Bon, faut savoir, j'en parlais tout à l'heure avec Isa de Victoire 2. C'est en ce moment, c'est une période très dure. Mmh. Visiblement, les gens ont plus de fric, donc ils ont du mal.
Le fric. Les frics, c'est quoi,
c'est quoi
ça
bon, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare.
Je sais pas,
dans la poche de certains.
Ouais. Mais oui, c'est ça.
Voilà.
C'est...
Donc en gros, bah non, on n'a pas eu le monde qu'on espérait. Bon, ceci dit, les points positifs, c'est que ça montre qu'il y a quand même encore des gens qui s'engagent, notamment les artistes. Puis bah, justement, les salles de concert, les techniciens, tout ça. Il y a quand même plein de gens super sympas qui sont prêts à soutenir les assos. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que...
Alors justement, on va parler de l'association donc Cap au Large. Alors dis-moi, tu es un des fondateurs. Ça
oui,
fait quoi, 10 ans maintenant, c'est ça, non?
14
ans,
oui.
Ok.
1996.
Eh bien, le siècle dernier, vous voyez la création d'une association qui a passé le millénaire. Donc au début, vous vous êtes dit, tiens, si on faisait de la voile, et puis petit à petit, vous vous êtes dit, tiens, si on en faisait un métier, et puis petit à petit, vous vous êtes dit, tiens, si on faisait la voile qui est un peu comme le tennis, quoi. Hein, c'est un peu, ça amène souvent les mêmes...
Alors il y a de ça, ouais.
C'est... Il y a un peu les mêmes classes sociales. Bon, après il y a le voileux, hein. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose.
Alors justement, etc. Bon, à la base, moi, voilà, je suis voileux, voilà, j'ai quelqu'un qui fait du bateau, j'ai toujours été passionné. Et puis c'est vrai que on était en contact avec une asso qui s'occupait de handicapés sur Toulouse et qui m'a proposé de skipper une petite semaine de croisière avec leurs adhérents. Donc, très curieux, j'y suis allé. Et c'était fabuleux. Voilà, on a eu des retours vraiment exceptionnels. Quand vous voyez des grands sourires jusqu'aux oreilles et des gens qui vous remercient comme ça avec les yeux, bon, forcément, ça, c'est enthousiasmant. Donc, on a décidé par la suite de créer une association donc, qui serait vraiment permanente, professionnelle. Et surtout conviviale. On voulait garder cet aspect-là. Et est né Cap au Large. C'est vrai
tout
que c'est un sport à la base qui a une connotation très élitiste. C'est vrai que c'est le yachting, quelque chose de
yeah.
Voilà. On sait qu'a priori c'est un truc qui s'adresse plutôt aux gens aisés. Donc l'idée aussi c'était d'essayer de la rendre accessible. On se rend compte aujourd'hui que malgré toute notre bonne volonté, c'est un sport qui a un coût réel.
Et oui.
Entretenir un voilier, c'est quelque chose.
C'est sûr.
Et voilà, malgré tous nos efforts, on reste dans une configuration où on a du mal à. Déjà, là, c'est pas possible de faire une activité gratuite, donc on demande une participation aux gens qui viennent et on essaie qu'elle soit la plus faible possible. Et malgré tout ça, on a beaucoup, beaucoup de mal à joindre les deux bouts, d'où les concerts.
D'où les concerts et d'où aussi la présence ici à Divergence, parce que nous, à Divergence, on soutient ce type d'activité. C'est plus que de l'initiative maintenant, puisqu'il y a longtemps que vous êtes dedans. En fait, ce qui vous intéresse, c'est d'accueillir des groupes de toutes sortes. Hein,
oui. Alors,
vous êtes fait quand même une petite spécialité. Enfin, vous faites parler de vous sur les aspects transversaux, c'est-à-dire accueillir des personnes handicapées.
L'idée, ça serait d'ouvrir. C'est d'ouvrir la voile, qui était donc une activité vraiment hors du commun. On découvre beaucoup beaucoup de choses en mer et d'ouvrir la voile à ceux qui n'y seraient peut-être pas venus d'eux-mêmes, ou ceux qui n'y seraient pas venus, on va dire, par les circuits traditionnels.
Ils sont où, les bateaux, au fait ?
Alors, les bateaux sont basés, il y en a un qui est à 7, c'est le Laisse-Dire. Pour ceux qui se promènent dans 7, il est très repérable, il est rouge, il est très joli. Il est basé à la base Tabarly, au bout du Môle Saint-Louis. L'autre est sur Frontignan. C'est un plus petit bateau qui fait 11 mètres et qui est plus à connotation plus sportive, on va dire. Le Laisse-Dire, le rouge, il est adapté. C'est un bateau qui fait 17 mètres qu'on a aménagé nous-mêmes. Une aventure extraordinaire. On ne va pas avoir le temps de tout raconter ici, je crois. Mais pendant 3 ans, une aventure vraiment extraordinaire. On a acheté une coque nue et on a absolument tout redessiné, tout... sur un cahier des charges qui était de rendre le maximum d'autonomie aux personnes en fauteuil roulant, notamment.
C'est-à-dire, sur ce 17 mètres, peuvent venir des personnes en fauteuil roulant.
Voilà, tout à fait. Ça, c'était un peu le challenge. Hein, voilà, surtout que, effectivement, vous l'avez dit, ça existe par ailleurs, mais la plupart du temps sur des catamarans. Pour ma part, j'étais très... je voulais un monocoque pour des raisons essentielles de sécurité. Après, il y a les convertis, les convaincus.
Non, mais c'est le gros débat, ça.
Le challenge, c'était d'aménager ce voilier de 17 mètres monocoque, donc qui permette la circulation en fauteuil roulant à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc, les personnes arrivent en fauteuil, ils peuvent monter à bord par le biais d'une rampe. Qui est étudié spécialement. On circule sur toute la partie cockpit arrière, on va dire, jusqu'à l'entrée, ce qu'on appelle la descente, pour ceux qui connaissent un peu le bateau, qui permet de descendre à l'intérieur. Et pour descendre à l'intérieur, on se transfère du fauteuil roulant sur un monte-personne, siège. Avec un treuil, on descend à l'intérieur et on se retransfère sur un fauteuil à l'intérieur. On circule en fauteuil partout, quoi. Donc voilà,
c'est un bateau assez
unique.
Si un jour il m'arrive d'être en fauteuil, je serais content de pouvoir aller faire du bateau.
Voilà, c'était l'idée. Et c'est vrai
vous n'avez pas de monde qui vient de vous voir avec
L'outil est fabuleux. On l'a mis à l'eau en 2005. À cette époque-là, on n'était pas encore dans un tel état de sinistrose. Au niveau financier, il faut savoir que donc les centres qui viennent nous voir, qui viennent naviguer, c'est souvent donc des IME, instituts médico-éducatifs, les ITEP, enfin toutes les structures médico-sociales, et que eux-mêmes ont des graves difficultés budgétaires. Ils ont plus les subventions qu'ils avaient à une époque, etc. Donc à l'époque, on a mis le bateau à l'eau, il naviguait quasiment non-stop. Aujourd'hui, on a plus de mal à remplir l'agenda. C'est étonnant. L'outil, il est vraiment exceptionnellement efficace. C'est quelque chose de génial. La voile, je reviens pas dessus, mais l'activité elle-même, elle est extraordinaire, que ce soit pour les handicaps moteurs, que ce soit pour les handicaps mentaux aussi, puisqu'on a une prise de responsabilité. Enfin, la voile, l'activité elle-même amène toute une série de situations où on va essayer de créer une stimulation.
Puis la voile, c'est formateur aussi sur le plan de l'organisation sociale, du lien social.
Tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, on accueille aussi beaucoup de groupes de jeunes, de jeunes en difficulté qui sont suivis soit par la PJJ.
J'adore l'expression jeunes en difficulté.
Voilà.
Mais jeunes et en difficulté. C'est pas la peine de dire jeunes en difficulté. Ben, bien sûr, c'est une redondance. Un jeune est par nature jeune, toi qui m'écoutes. Tu es jeune, donc tu es en difficulté. Parce que tu es jeune. Écoute le son de ma voix. Tu es jeune, tu es en difficulté parce que tu es jeune. On continue maintenant, ça y est, on a compris le truc. Ça sert à rien de dire jeune en difficulté,
La vérité, c'est que on a du mal effectivement à trouver vraiment une appellation pour ce type de public. Mais ceci dit, c'est des gens qui sont
excités.
Jeunes.
excités.
Et qui sont, voilà.
À donf!
Peut-être un petit peu moins.
Ah, mais là, ils se calment sur un bateau, hein, parce que la mer, ça pardonne pas. Hein.
Voilà, tout
hein
à fait. Tout
tu
à fait,
tu les amènes, là, ils vont voir que c'est, si tu, là, tu veux commander, bah, vas-y, prends les écoutes.
Il y a des petits caïds qui arrivent, ouais, effectivement, d'un coup, le ton, le ton baisse.
Ça se calme vite,
évidemment.
Hein. Une petite bordée, là, et hop là!
Il voilà, y a un peu de gros temps.
Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Non, non, mais pour ça, c'est formateur, là.
Non, non, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, les retours des éducateurs, ils sont en général, tous super positifs, quoi. On a vraiment voilà, des bons retours.
Et donc, ils reviennent pas parce qu'il n'y a plus de sous.
Parce qu'il n'y a plus de sous. Parce qu'ils ont du mal à avoir des budgets, ils ont du mal à avoir leur subvention qui leur permet de venir. Même si nous, on essaye de faire en sorte que ce soit vraiment pas cher, et ben, malgré ça, c'est vachement difficile, quoi.
Oui, parce que vous avez des tarifs qui sont quand même...
Bah, on est au ras
moi,
des pâquerettes.
Moi, j'ai un peu regardé sur votre site Cap au Large, hein, ça fait pas, enfin voilà. Quoi.
Voilà, bah, on est au ras des pâquerettes, hein, ça couvre pas, pour être franc, hein, ça couvre pas la moitié des frais réels. Hein. Ouais. Donc, bah, pour ça, on fait appel évidemment aux emplois aidés. En l'occurrence, on a deux postes en CAE, mais ça suffit pas. Malgré tout ça, on a beaucoup, beaucoup de mal. Il est question qu'on mette en vente le bateau bleu, le 11 mètres, ce qui évidemment, ça fait mal au cœur. Mmh. Mais si on veut réussir à finir l'année sans avoir les huissiers au cul, ben
ah ouais,
il va falloir faire quelque chose.
Il faut faire des sorties.
Voilà, il faut faire des sorties, il faut remplir. Nous, on est là, on est prêts à travailler à fond.
Okay. Hein, et... Alors, il y a des dates de prévues, des moments de sortie ou c'est à la carte? Comment ça se passe?
C'est à la carte, c'est permanent. Ça veut dire que ça peut être vraiment n'importe quel jour de l'année. Ça peut être sur une demi-journée, ça peut être sur une journée complète, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur deux jours, ça peut être sur un mois. Il y a des tas de projets qu'on a fait qui sont vraiment hors du commun. Il y a des groupes de jeunes qui sont venus de Metz en VTT, tout au long de leur descente en VTT de Metz quand même. Ils récoltaient des fonds et ils sont arrivés à Frontignan, ils ont embarqué sur les bateaux, on les a emmenés en Algérie. Et ils apportaient ce qu'ils avaient récolté pour reconstruire une bibliothèque du côté d'Alger qui avait été détruite lors du tremblement de terre. Bon, ça, c'est le genre de projet. Ça leur a pris, je crois, pas loin d'un mois en tout. Mais c'est fabuleux, quoi. Voilà, nous, on essaye, évidemment, de privilégier tout ce type de projet. On est...
Enseignant, toi qui m'écoutes, oh, jeune qui est en difficulté, toi qui m'écoutes, et puis éducateur, toi qui m'écoutes, chef d'entreprise, vous, à l'autre bout du micro, allez sur Cap au Large, CAPAULARGE, Cap au Large, quoi, hein, tout attaché, .org, et vous aurez toutes les informations sur cette association qui fait passer avant tout le lien social et puis l'implication dans la société avant le fric. On aime bien ça à Divergence. Écoute, tu sais que on va peut-être t'inviter le 10 juin parce que le 10 juin Divergence sera de 9h à midi sur le port de la Grande Motte pour le départ de la course Le Grand 8. C'est une course qui est organisée par un centre nautique de la Grande Motte, et ça sera peut-être l'occasion, tiens, de reparler de Cap au Large.
Ah bah, avec grand plaisir.
Hein, on va te caler dans les invités pour ce grand direct autour d'une course de 6,50.
Et alors,
les petits 6,50
qui sont... Bien sûr, je connais bien les 6,50.
Voilà, c'est
et alors, c'est doublement amusant parce que le 10 juin, c'est la date de création réelle de Cap au Large.
Ah bah voilà.
On fêtera ce jour-là nos 14 ans réellement.
Voilà, on fêtera le départ, la deuxième course en solitaire, le Grand 8, course en solitaire en Méditerranée, et puis voilà. Donc à Divergence, on se la joue pas bobo parce qu'on fait de la voile. Non, non, on se la joue mer, surtout. Vous voyez, c'est une course de 6,50. Hein, c'est pas un truc qui se la pète.
Ils sont courageux.
Et là, c'est du courageux parce qu'ils embarquent pas toute l'électronique, etc. C'est à l'arrache. Essayer de faire le tour de la Méditerranée en 6,50 et après, on en reparle. Ben, Cap au Large, que dire de plus? Parce que... Il faut donner envie maintenant, hein, parce que se dire oh, on n'a plus de sous, on galère, tout ça, nous on connaît la Divergence, on connaît ça par cœur. D'ailleurs, l'an dernier, on avait fait une campagne de financement et les gens nous ont aidés, ça nous a aidés à repartir. Donc, on est reparti.
Ouais.
Cap au Large, donc une initiative intéressante. On va continuer à vous suivre parce que ça serait vraiment con et débile que vous soyez obligés et de vendre et de vous cacher sous les roofs là pour pas que des huissiers viennent.
C'est vrai, j'ai fait un petit appel au secours au Conseil Général là il y a 2-3 semaines. Ouais. Le dossier est parti par la poste, on verra.
Le problème, c'est que tout le monde les appelle au secours en même temps, et
exactement.
Eux, ils ont de moins en moins de sous.
Voilà.
Ben, c'est comme ça, puisque nous avons trop dépensé dans ce pays, hein, trop de fonctionnaires, en enlevant un sur deux, etc., etc., diminuons les subventions, etc. Non, non, il y a encore beaucoup de richesses produites énormément dans ce pays. Après, c'est une histoire de partage, les amis, hein? Le partage. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le partage? Tu as une idée, toi, de ce que ça veut dire, Vincent, le partage?
Ben, le partage, ça a plein de définitions possibles. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on se demande. Mais voilà, ben, moi, j'essaie de faire partager une passion, par exemple, en essayant de ne pas trop compter son temps, voilà, etc. Je crois que, voilà, il y a plein de façons de partager. Ben, moi, j'incite les gens, je les invite surtout à venir partager un bon moment sur un voilier. Il faut savoir qu'on a parlé du public un peu particulier. Il faut savoir qu'on est ouvert à tous sans exception, donc y compris monsieur tout le monde, monsieur valide, monsieur qui habite loin ou pas loin. N'importe qui peut venir naviguer à cap au large. S'il veut apprendre, on va lui apprendre. On est là pour ça, on est professionnel. Et puis, ben, s'il veut faire un tour... Pour la bronzette, il n'y a pas de problème
non
plus.
C'est ça, c'est cap au large, c'est ouvert à tous. Et tous veut bien tout dire, tous. Hein, ce n'est pas spécifique.
C'est tout à fait ça.
Vincent, à bientôt, bon vent. Et moi, je vais partager le temps avec la régie qui me fait des signes en me disant « Louis, aux commandes, bien sûr, je te laisse reprendre la main ». Je vous dis à bientôt sur les ondes de Divergence et à suivre le programme sur Divergence. On va vous en dire plus un petit peu après.
C'est avec plaisir et intensité que vous écoutiez Basse Température, le titre éponyme de l'album de Highton. À suivre sur le 93.9, à 13h20, vous retrouverez Chameaux amers, les nouveautés littéraires par Dominique Ossenac. À 17h, ce sera Radio Micide et RFI pour un point sur l'information internationale. À 17h10, ce sera la rediffusion de ce Tous au poste. À 18h, ne manquez pas le grand retour de l'hebdo du Sherpa. Après 15 jours d'absence, eh bien David Beau revient pour vous présenter son magazine culturel de 30 minutes. Et ce sera, si oui, à 18h30 des mardis, Miam Miam, les confessions de Christopher Crimes chez Célier Morel. Pour terminer la soirée en beauté, dirons-nous, ce sont les rendez-vous de l'international cacationniste sous les coups de 20h, 2h de musique et d'absurdité, servis par David Fraissinet, Olivier Torres, Guillaume Trébuchon et leurs amis. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée sur le 93.9 de Divergence FM.